Lorsqu'il est question de catastrophe ou de désastre, je vais préciser immédiatement pourquoi je distingue les deux, d'ailleurs, hein, ici, parce que ça ne va pas de soi. Bien, pour les médias, en fait, on considère aujourd'hui, finalement, que les bilans sont toujours ceux de toujours plus de dommages. Hein, vous regardez la littérature, quelle qu'elle soit. Les bilans, en fait, sont clairs. Hein. Donc, il y a toujours plus de fréquences de désastres, il y a toujours plus de pertes économiques associées aux désastres. Et comme l'a osé même écrire un collègue anglo-saxon, en fait ils sont plusieurs, White et Ali, the more we know, the more we lose. Plus on en sait, plus on perd. Bon. C'est en quelque sorte un bilan assez étonnant, hein, comme si la recherche universitaire ne servait à rien, et comme si les politiques, les gestionnaires qui cherchent à prévenir les risques, bah, finalement travaillaient dans le vide. Et comme vous le constatez d'ailleurs, ce premier bilan est quand même extrêmement disturbing, hein, comme le disent les anglo-saxons, est tellement étonnant, parce que quand même, rappelons quand même donc les choses, clairement, hein, en 1960, population humaine estimée 3 milliards d'individus, aujourd'hui 7 milliards et 200 millions d'individus. Donc il paraît qu'entre deux, on perd toujours plus et que la politique de prévention des risques ne sert à rien. Il y a forcément quelque chose de bizarre, hein, vous voyez, donc derrière ceci. Bien entendu, ceci étant particulièrement tourné vers la nécessité de comprendre pourquoi, en même temps, il y a toujours plus d'urbanisation. Alors qu'on nous dit, on va voir comment cela se présente, hein, dans les bases de données mondiales, qu'il y a toujours plus de désastres. Je donc précise immédiatement que par désastre, je me réfère aux définitions de base de ces bases de données, en fait, hein, MDAT, Emergency Database, qui est notamment bien sûr la base du CRED, le centre de recherche sur l'épidémiologie des désastres, j'insiste à dessein parce que le nom attire l'attention sur le fait qu'il y en aurait toujours plus, hein, voilà. Hein, qui est basé à Louvain-la-Neuve et qui définit les désastres de manière à la fois conventionnelle et utile pour commencer l'analyse et l'effort de réflexion, comme tout événement pour lequel on aurait au moins 10 morts, au moins, hein, et ou au moins 100 sinistrés, et ou, partie non quantifiable et de loin la plus intéressante, nécessité de recourir à une aide extérieure à la collectivité ou communauté locale, qui est en fait quelque chose de non quantifié, mais qui est le plus intéressant parce qu'il attire l'attention sur la nécessité de changer d'échelle. Hein, le désastre donc nécessiterait effectivement une aide extérieure à la collectivité locale. Bien, alors, si je m'appuie sur cette définition de base, qui est une définition qui n'est pas celle de la catastrophe, parce que comme nous allons le voir, il y a de fortes présomptions pour lesquelles tout désastre n'est pas, et Dieu merci pour nous, nécessairement une catastrophe. Hein? Bien, donc, si je regarde ces définitions et si je regarde les bases de données, bien, en fait, on constaterait une tendance, vous voyez, mondiale séculaire, qui va d'un côté vers toujours plus de fréquences de désastres, mais qui aujourd'hui, en même temps, fait ressortir quelque chose d'étonnant, parce que les bases de données font ressortir dans le même temps une tendance à la baisse de la mortalité enregistrée, quelle que soit la critique que l'on puisse adresser à la mesure statistique de la mortalité qui ne va pas de soi du tout. Ici, je rejoindrai certainement d'ailleurs les préoccupations de mes collègues historiens par rapport à la nécessité impérieuse et fondamentale de prendre ces données avec beaucoup de recul critique. Hein. Ce sont des données qui sont construites, qui partent de choix de seuil, qui ne sont d'ailleurs pas anodins et qui, pour les bases de données internationales, vont intéresser fondamentalement les assureurs, les réassureurs et les acteurs majeurs donc qui travaillent au milieu métropolitain. Donc ces données sont toutes sauf objectives. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, objectif dans l'absolu? Je vous laisse trouver la réponse, tout le monde le sait. Alors, ce sont des choix, mais l'important est de surtout que ces choix soient clarifiés le plus possible. Comment peut-on expliquer ce bilan ambigu? Qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière ceci? Eh bien, lorsque je cherche à expliquer le bilan ambigu, je tombe sur le deuxième point, hein, me semble-t-il, c'est la proposition que je vais développer devant vous, c'est-à-dire que je retombe sur une autre ambiguïté. Une autre ambiguïté, en effet, eh bien, au moment même où on nous dit il y a toujours plus de fréquences de désastres, on peut, et tout le monde le sait en fait, hein, montrer que cette proposition est étonnante parce que dans le même moment, il y a toujours plus d'urbanisation. L'urbanisation s'intensifierait de manière contre-intuitive au moment où on nous dit il y a toujours plus de désastres. Comment peut-on expliquer ceci? Et donc les deux propositions apparaissent comme extrêmement liées sur le fond. Et toutes les deux sont dissonantes. Et cela nous amène, bien sûr, à revenir sur les relations très ambiguës, les relations paradoxales entre urbanisation et gestion des désastres, en posant, si j'ose dire, une double hypothèse. Première hypothèse, que s'il n'y avait pas des politiques de prévention des désastres, l'urbanisation ne pourrait pas s'intensifier comme elle le fait. Donc, les politiques associées à la prévention des désastres sont nécessaires à bien l'intensification de l'urbanisation, mais en même temps, ces politiques sont nécessairement limitées et nécessairement insuffisantes, quoi qu'on fasse. Et c'est précisément dans les limites et dans le caractère insuffisant que l'on peut trouver le moteur principal d'urbanisation. Et derrière ceci se pose toute une série de questions qui sont liées à la capacité à l'apprentissage, la capacité à l'acceptation des politiques liées à la prévention des désastres. Quel désastre ? Pour qui ? Pour quels acteurs ? Et pour essayer de comprendre ceci, bien, nous n'aurons guère d'autre choix que d'essayer de montrer en abstraction, même si ça peut paraître un peu prétentieux, hein, en fait, de chercher à prendre du recul, peut-être tout simplement, c'est-à-dire à se tourner vers des notions plus abstraites, comme la notion de résilience, voire, si on avait plus de temps aussi, vers la complexité et les théories de la complexité. Et bien entendu, comme le géographe ne peut se contenter de bases de données, d'histogrammes, hein, le géographe aime le terrain. Bien, on va s'intéresser au retour d'expérience, la PAS, dans un premier temps, parce que donc un cas de terrain, si j'ose dire, où des expériences en retour vont permettre de justifier dans une certaine mesure les interrogations posées à partir d'une vision à petite échelle mondiale, qui est terriblement conditionnée d'ailleurs par l'apport des assureurs. Donc on est obligé de croiser l'information avec d'autres. Bien. Et ensuite, cela va nous permettre de justifier, je l'espère du moins, le passage au quatrième point, l'intérêt et les limites de la notion de résilience. Pourquoi aujourd'hui, l'UNISDR, par exemple, hein, donc l'International Strategy for Disaster Reduction à Genève, valorise autant la notion de résilience, et pourquoi la recherche se tourne-t-elle toujours plus vers cette notion de résilience ? Et également, pourquoi distinguer désastre et catastrophe. Voilà donc ce que je vous propose. J'ai déjà pris 10 minutes. Donc, mais l'important étant d'abord de savoir où on va, pourquoi on va dans cette direction-là, hein, donc, pour donc, que les choses soient, disons, les plus voyez, ciblées possibles. Ce qui n'est jamais qu'une approche possible de la question. Ceci dit, j'ai eu la chance, comme beaucoup de mes collègues du reste, hein, ce n'est pas unique, d'être lecteur critique du Global Assessment Report, hein, le dernier rapport de l'ISDR, et dans cette livraison 2013, on voit enfin apparaître clairement donc le bilan lié à l'évolution de la mortalité, que ce soit de manière absolue ou relative, est considéré comme étant en déclin, au moins à l'échelle de la planète aujourd'hui. En valeur absolue, les chiffres que nous livrent les statistiques, brutes, et encore plus en valeur relative, lorsqu'on compare ces chiffres de mortalité brute avec les évaluations démographiques actuelles. Et là, si j'ose dire, même si ça peut paraître provocateur, on peut prétendre, certes, qu'on meurt toujours trop en relation avec les désastres, qu'il soit naturel ou technologique, peu importe, bien, on meurt toujours trop, mais comparativement au passé, si tant est qu'on puisse voyez, développer une comparaison simple entre l'actuel et le passé, ce qui reste de toute façon contestable sur le fond, si j'ose dire, comparativement malgré tout, on n'a jamais enregistré aussi peu de mortalité relative qu'aujourd'hui, même s'il y en a toujours trop, évidemment. Et nous travaillons toujours dans le sens de réduire la mortalité. Soit dit en passant, cette question n'est pas développée en matière de perte économique, mais il y aurait intérêt à aussi reconsidérer cette question en croisant, même de manière grossière, les évaluations macroéconomiques des pertes des assureurs avec les évaluations macroéconomiques concernant donc la création de valeur ajoutée ou même donc celles qui sont liées aux échanges internationaux de marchandises. Et là, on tomberait sur des surprises, même si les estimations seraient terriblement grossières. Et c'est bien certainement l'une des raisons principales pour laquelle les économistes évitent d'aller dans ce sens-là. Une autre raison étant qu'ils se mettraient à dos automatiquement les lobbies des assureurs et des réassureurs, évidemment. Bien, alors, premier point, vous voyez, donc on part des éléments, je dirais, pratiquement de base, parce que ça, vous le retrouvez dans n'importe quelle publication, vous l'avez dans Dauphiné Provitolo, partout. Hein. Si je regarde la base de données MDAT, voilà ce que me donne l'évolution sur la période 1900-2004. Tout le monde voit très bien que si j'en reste à ça, d'ailleurs, la tendance est de caractéristique exponentielle, et c'est, comme le disent les anglo-saxons, « very disturbing hein, ». Ça, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce... que cette évolution-là, où va-t-on aller ? Sachant que même si je ne le développerai pas ici, je peux quand même immédiatement mentionner des biais, parce que ce que masque l'information supposée identique entre 2000 et 1925, c'est clair que les manières d'accéder à l'information en 1925, l'information en 1925 sur les désastres, ce n'est pas la même chose, malgré les évaluations statistiques, que ce que vous avez en 1995 et 2000. Donc on a l'impression, vous voyez, d'une comparaison possible. En fait, on compare des ordres de grandeur grossiers, mais la tendance de fond, on l'a bien ici, et c'est celle qui est donc admise tout particulièrement par les assureurs, les réassureurs et la grande majorité des gestionnaires, si ce n'est d'ailleurs par bon nombre de mes collègues. Là, vous avez trouvé que j'ai la langue pointue, sans compter que je fais partie d'entre eux, surtout lorsqu'ils cherchent à obtenir des financements auprès de Bruxelles. Parce que bon, ça fait aussi partie, effectivement, des éléments. Vous avez trouvé que j'ai la langue extrêmement pointue, mais je me critique moi-même. Bon. Ben, donc, après tout, voilà. Et en même temps, c'est aussi, comme on le dirait, a matter of fact. Hein. C'est bien, si vous voulez, quelque chose qu'on enregistre. Et après tout, il vaut mieux cette information que pas d'information du tout. L'important étant de voir quel est le niveau de fiabilité de l'information. Alors, si je regarde un peu plus près, vous voyez, ça, ce sont les dernières livraisons en matière, vous voyez, donc, d'évaluation des pertes économiques, qu'elles soient directes ou indirectes, d'ailleurs majoritairement directes ici, il y a plein de problèmes méthodologiques derrière, évidemment, associés aux désastres dits naturels. Tout le monde voit très bien que la tendance est relativement voisine, ok, hein, donc, voilà. Même chose, effectivement, si vous regardez d'autres apports, même si, en fait, ils sont très proches des premiers, puisque Munich Re alimente la base MDAT. Donc la base MDAT incorpore les données de Munich Re en les déformant. Là aussi, on voit apparaître des tendances qui, vous le voyez, sont largement admises par la bibliographie. Toutefois, alors là où change les choses, légèrement, c'est que si je regarde donc les dernières livraisons telles qu'elles sont issues des statistiques, j'observe qu'il y a quelque chose d'un peu étonnant dans un premier temps, c'est-à-dire que tout le monde voit très bien qu'on commence à s'interroger sur ce qui semble être ici, vous voyez, à propos donc des désastres dits technologiques. Pour l'instant, j'assimile les différents types de désastres, on reviendra sur ce choix, comme l'ont fait d'ailleurs mes collègues auparavant, hein, parce que sur le fond, distinguer absolument les désastres technologiques des désastres dits naturels est quelque chose qui est éminemment contestable. D'ailleurs, on parle de plus en plus de désastres NATEC, hein, donc une sorte d'hybride entre les deux, ce que les expériences au retour permettent de démontrer d'ailleurs assez aisément. Hein. Quoi qu'il en soit, donc les bases de données distinguent encore les deux, et comme vous le constatez, eh bien ici, il semblerait hein, que donc on assisterait à un changement donc de tendance. Ceci dit, ne soyons pas naïfs, parce que la tendance étant exponentielle, et si par exemple on avait la courbe, vous voyez, par exemple jusqu'en 1940, ben, ici on pourrait peut-être trouver quelque chose de voisin. Donc on aurait bien donc beaucoup de prudence à ne pas penser que la courbe s'inverserait effectivement et définitivement. Ça peut être simplement une inflexion de tendance qui est en quelque sorte amplifiée par le fait qu'on travaille sur des fréquences d'événements toujours donc plus grandes. Bien. Et puis par ailleurs, de toute façon aussi, on sait de nouveau que les informations de 1940 n'ont pas le même niveau de fiabilité relative, ni les mêmes filtres de conditionnement de l'information que l'information d'aujourd'hui. Par contre, ce qui semble se dégager des études, là où il y a moins de doutes, c'est l'évolution de la mortalité. Parce que, comme vous le voyez, hein, bien le nombre donc de personnes présumées tuées lors de désastres dits naturels entre 1900 et 2011, bien de toute façon, l'évolution des chiffres tels que les livres, les bases de données est claire ici, toujours plus bas. Et si maintenant je prends en compte l'évaluation relative, bien en fait, je ne peux pratiquement plus représenter l'information. Donc, il est clair là, par contre, que la tendance dans les ordres de grandeur. Eh bien, à la réduction relative, de la mortalité associée à ces événements. Ce qui, bien entendu, est très étonnant, parce que chacun d'entre nous sait très bien que les évaluations démographiques et les évaluations de l'urbanisation font ressortir une tendance à toujours plus de population, et toujours plus de population urbaine, d'ailleurs, hein, soit dit en passant, sachant que dans un premier temps, et là je rejoins ce qui a été développé par mes collègues historiens, dans un premier temps, on peut penser que la concentration urbaine serait un facteur aggravant la vulnérabilité. Je donc poursuis leur effort d'analyse, hein, donc avec un regard légèrement différent, certainement, mais dans le même temps, hein, il y a aussi, bien entendu, la capacité à anticiper, ne serait-ce que partiellement, l'évolution de la vulnérabilité et des dommages. C'est, d'ailleurs, c'est quelque chose qui apparaît assez donc nettement, de, quelles que soient les disciplines, d'ailleurs, hein. Quelles que soient les disciplines, hein, mes collègues l'ont mentionné bien entendu aussi, hein, c'est-à-dire que les villes ont la capacité à produire de la vulnérabilité et des moyens politiques permettant de compenser cette augmentation de vulnérabilité. Et de surcroît, les moyens de tirer parti de l'augmentation de la vulnérabilité, comme s'il y avait des formes de spéculation sur la vulnérabilité. Vous allez me dire, c'est une vision d'esprit ? Ah bon ? Que font les assureurs et que font les réassureurs ? Et ce sont eux qui sont derrière les statistiques. S'il n'y avait pas de dommages, si tout dommage était éliminé, ben l'assurance disparaîtrait ipso facto. Hein. L'intérêt de l'assureur, c'est de prévoir le plus possible les futurs dommages, de préférence avec l'intensité la plus faible possible, mais bien entendu, il faut qu'il y ait de futurs dommages. Si les dommages disparaissent, l'assurance disparaît, et donc, fin de l'histoire. Alors, donc, vous voyez, la base de l'analyse est très simple. Hein. Comment peut-on expliquer cette capacité présumée à anticiper les dommages, anticiper les désastres, et en même temps, l'impossibilité à éliminer tout dommage, l'impossibilité d'éliminer tout désastre. On pourrait même aller plus loin, d'ailleurs, en supposant ce qu'on va voir, d'ailleurs, hein, et ce qu'on sait, c'est-à-dire que lorsque les politiques cherchent à anticiper de futurs désastres, dans certains cas, sans le vouloir, elles contribuent à préparer de futurs désastres. C'est-à-dire elles se retournent contre leurs intentions initiales. Et là, c'est un point extrêmement important, évidemment, qui est lié à, notamment aux théories de la complexité, l'auto-organisation, etc. Alors, bien, donc, forcément, derrière ce bilan très étonnant, nous voyons apparaître, vous voyez, un parallèle, hein, donc une sorte d'écho, plus qu'un parallèle, parce que les deux événements sont très fortement liés, les éléments sont liés, hein, l'attention sur les relations également paradoxales entre les politiques de prévention des désastres limitées, nous disent les donc, bases de données, et les assureurs aussi, et pourtant, dans le même temps, l'intensification de l'urbanisation. Comment cela se fait-il ? Alors, bien sûr, il y a plusieurs réponses à cela. Eh bien, d'où viennent les statistiques ? Ben, voilà, MDAT, hein, International Disaster Database, OK. Où est localisé MDAT ? Où est le CRED ? Louvain-la-Neuve. Louvain-la-Neuve, comme par hasard, c'est Bruxelles. Comme c'est étonnant. Hein, pas besoin de préciser plus. Hein. C'est-à-dire que MDAT est une base métropolitaine, hein, qui est d'ailleurs au service des institutions métropolitaines, en l'occurrence au cœur d'un des pouvoirs décisionnels de l'Union européenne. D'ailleurs, et donc ça apparaît presque immédiatement ici, et bien sûr, la base de données va d'abord s'intéresser, même si elle ne s'intéresse pas qu'à cela, bien aux villes principales, aux mégapoles, et de préférence aux métropoles, c'est-à-dire là où il y a un marché de l'assurance. Donc, par exemple, Bangkok, même si d'ailleurs les Français ont fait les frais récemment, hein, ils avaient beaucoup investi, vous voyez, dans l'assurance en Thaïlande. Malheureusement, comme pourrait l'expliquer Roland Nussbaum, qui est le directeur de la mission des risques naturels, vous avez toutes et tous entendu parler des inondations de Thaïlande, et donc ils n'ont pas fait beaucoup de profits et se sont désormais retirés de la Thaïlande, pour mieux investir ailleurs, bien entendu. Mais jusqu'à preuve du contraire, connaissez-vous une société d'assurance qui a fait faillite en France ? Même s'il n'y a pas que cela derrière, hein, parce que le marché français est un marché, d'ailleurs, qui est pour l'essentiel adossé par l'État et qui a la garantie de l'État, ce qui distord aussi, d'ailleurs, le marché, soit dit en passant. Donc, Louvain-la-Neuve, mais il n'y a pas que Louvain-la-Neuve, parce que Louvain-la-Neuve, comme d'ailleurs toutes les institutions universitaire, hein, bien, est en lien avec d'autres institutions et des institutions internationales. Comme par hasard, vous voyez que MDAT, hein, fait ressortir sur son bandeau les liens avec l'UNISDR, c'est-à-dire les Nations Unies, et ISDR, donc c'est la stratégie internationale pour la réduction ou la prévention des désastres. Localisez où ? À Genève. Et voilà, bien entendu, que les deux se mettent à travailler ensemble. Ici, je vous ferai grâce, bien entendu, lié avec les États-Unis, qui sont aussi très présents, bien sûr, ici. Comme vous pourriez le vérifier en revenant sur l'historique de, donc, d'MDAT. Bien, donc, du coup, effectivement, on en déduit quoi ? Bien, on en déduit qu'il y a des enjeux à constituer des bases de données sur les désastres qui sont plus ou moins au service, ou plus ou moins alimentés, ou plus ou moins en lien avec des multinationales qui sont principalement tournées ici vers la banque, l'assurance, le négoce, etc., et qu'on est en présence, voyez, donc, d'un bilan qui est conditionné par les acteurs métropolitains. Mais... Et dans ces conditions, effectivement, on voit bien apparaître le décalage entre toujours plus de désastres, de fréquences de désastres, et pourtant toujours plus de multinationales qui, d'ailleurs, sont, de manière générale, prospères au même moment où les métropoles s'intensifient elles-mêmes. Sans compter que, si maintenant je reviens sur la lecture critique de la définition du désastre, désastre par rapport à MDAT, vous pourriez me dire très légitimement, mais pourquoi 10 morts ? Pourquoi 100 sinistrés ? Et pourquoi pas 5 ? Et pourquoi pas 20 ? Et pourquoi pas 30 ? Bien, et effectivement, cette question, les chercheurs se les posent. Bien sûr, c'est légitime. Il n'y a pas de légitimité absolue à placer le seuil au-dessus de 10 morts. L'idée étant au-dessus de. D'accord, hein ? C'est ça l'idée. Un désastre doit être un gros désastre. Bien, en Amérique latine, en Colombie, à Medellín, hein, on s'aperçoit que MDAT n'est pas opérationnel. Lorsqu'on veut dresser un bilan des désastres, voilà en quelque sorte, vous voyez, les fréquences des événements MDAT. Il n'y a presque rien. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Tant mieux, me direz-vous, hein, on ne peut pas s'en... Ouais. Mais autrement dit, l'information n'est pas utilisable dès lors qu'on veut développer un diagnostic à des fins d'interprétation et ou de gestion. Donc, les collègues latino-américains ont compensé les limites d'MDAT en développant une autre base de données, Death Inventar, que vous avez ici, et laquelle fait ressortir en abaissant le seuil ce que les collègues latino-américains et Juanita López appellent des petits désastres. Petits désastres parce que inférieurs au seuil donc, qui est défini par MDAT. Qu'est-ce que c'est qu'un petit désastre ? Vous voyez tout de suite que cela étant comme une sorte de dissonance logique. Est-ce qu'un désastre peut être petit ? Ah, ça attire notre attention sur le fait que la définition du désastre, et tout à l'heure on l'a aperçu également, me semble-t-il, avec les présentations de mes collègues historiens, une catastrophe peut aussi être une petite catastrophe. Tout dépend de l'échelle à laquelle on travaille, et tout dépend des transformations du, si j'ose dire, système, on va y venir, de peuplement qui est impliqué par l'événement. D'ailleurs, on revient sur l'événement, entre parenthèses, hein, avec des lectures. C'est pas l'événement anodin, c'est l'événement repéré comme étant significatif par rapport, disons-le, à la capacité supposée à voir des transformations fondamentales ou des structures fondamentales d'un système de peuplement, si vous avez une lecture systémique sur laquelle je vais revenir dans un instant. Et si maintenant j'abaisse le seuil, alors là, ce n'est plus donc disturbing, c'est extremely disturbing, parce que les fréquences explosent. On n'en a jamais vu autant. Regardez la fréquence que vous avez à Medellín, hein, donc déclarée par Death Inventar. Et pourtant, dans le même temps, jamais l'urbanisation de Medellín ne s'est autant intensifiée qu'en dépit de cette prolifération de petits désastres. Donc, nous retombons, en changeant d'échelle, sur les mêmes problématiques, hein, et bien que les peuplements soient non métropolitains. Ce qui veut dire que la tendance de fond est observable, quelles que soient les échelles et quelles que soient les disparités de peuplement. Par conséquent, il y a bien un problème réel, hein, derrière c'est, voyez, ce décalage entre fréquence et donc évolution des peuplements. Alors, l'avantage de Death Inventar pour un géographe, c'est ce qu'il permet de cartographier, bien entendu, la répartition des petits désastres, c'est ce qu'a fait ma collègue désormais, hein, et vous constatez par exemple sur ce genre de carte la relation inverse, hein, ça, pour l'instant ça paraît anodin, on va voir qu'en fait c'est extrêmement important, relation inverse entre les évaluations socio-économiques des populations concernées, ici, et la fréquence des petits désastres. Plus les populations sont pauvres, plus il y a de petits désastres, Plus les populations sont riches en simplifiant, et moins il y a de petits désastres. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de désastre du tout, et ce qui annonce en fait de futurs désastres au sens d'EMDAT, peut-on supposer, et ce qu'on verra d'ailleurs par la suite. Hein, parce que, comme vous le voyez, quoi qu'on fasse, hein, et quel que soit le niveau socio-économique, un, il est clair qu'on ne peut pas échapper à tout désastre, et deux, on peut même démontrer, et donc on va le voir comment, que cette tendance contribue, sans le vouloir, à préparer des désastres au sens d'EMDAT et peut-être des catastrophes. La différence entre désastre et catastrophe, vous l'avez compris. Hein, bien, la différence entre les deux, c'est que dans le cas d'un désastre, il n'y a pas, on doit être en mesure de démontrer qu'il n'y a pas remise en cause fondamentale des structures du peuplement, des structures du système de peuplement. Dans une catastrophe, on doit être en mesure de démontrer qu'il y a une remise en cause fondamentale des structures de peuplement, du système de peuplement. Au moment, par exemple, où vous voyez un journaliste à Tokyo qui vous dit « c'est une catastrophe » en train de parler avec un micro et filmé à la télé, il est en train de démontrer que ce ne peut pas être une catastrophe. Parce que s'il y avait catastrophe, il n'y aurait pas d'électricité, l'immeuble serait à moitié endommagé, etc. Donc il est en train de vous expliquer qu'il raconte n'importe quoi. Ou plus exactement, qu'il n'emploie pas, enfin, là j'exagère, hein, j'exagère même beaucoup. C'est-à-dire qu'il emploie le terme « catastrophe » dans un sens imprécis, qui peut donner l'impression, si on creuse et si on va dans ce sens-là, que l'on est en présence d'une contradiction. En tout cas, quelque chose, vous voyez, qui présente du flottement. Alors, donc, et vous voyez, alors, revenons au fond du problème. On nous dit, il y a toujours plus de catastrophes. Ah bon ? Eh bien, s'il y avait toujours plus de catastrophes, j'aimerais que vous m'expliquiez comment se fait-il que les sociétés d'assurance et de réassurance dégagent toujours plus de bénéfices. Une catastrophe suppose une remise en cause des structures fondamentales d'un système de peuplement, dont bien sûr aussi les assurances et les réassurances. C'est la raison principale, notamment, pour laquelle il semble utile de distinguer désastre et catastrophe, si on veut viser, avec cette approche-là, il est vrai, hein, donc la plus grande précision possible. D'ailleurs, vous voyez, donc, ces éléments sont pratiquement intégrés dans les informations également que l'on peut avoir, hein, parce qu'on nous dit toujours plus de désastres, et par abus de langage, si on adopte cette approche-là, toujours plus de catastrophes. Mais pourtant, regardez les statistiques de Hong Kong, vous voyez, très peu de temps, hein, donc mars 2011, septembre 2011, derrière, il y a des milliers de personnes qui sont spécialisées dans, dans la collecte, le traitement critique de l'information, et qu'est-ce que je vois? Deux catégories, finance et immobilier, donc bureau, real estate, hein, finance, et regardez les chiffres ici, regardez les chiffres quand même, on prend peur, 80 000, 100 000 personnes, et en plus, il y a une division par genre. Au moment où ces spécialistes du risque disent il y a toujours plus de désastres, eh bien, en fait, ils n'ont jamais été aussi nombreux à quantifier, effectivement, l'information et à chercher à avoir l'information la plus précise possible sur les désastres. N'est-ce pas étonnant? Et dans le même temps, évidemment, c'est toutes ces personnes qui travaillent ici. Ça, c'est une photo que j'ai prise dans ICC, International Commerce Center, hein, qui est un photomontage, hein, réalisé par les Chinois de Hong Kong. Bon, on s'en fout, hein. L'important ici, c'est... D'ailleurs, ça correspond bien à ce qu'on voit sur le terrain, hein, parce que les tours, elles existent bien. C'est pas une vision de l'esprit. Hein, bon. Et donc, on voit bien, effectivement, que plus on nous dit il y a de désastres, bien dans le même temps, plus il y a des gestionnaires des désastres, hein, qui, eux, sont associés dans les différents bureaux, travaillent en réseau, etc., et qui contribuent à expliquer l'intensification de la métropolisation de Hong Kong, même si on pourra discuter le fait que donc Hong Kong, appartenant à la République de Chine, soit métropole. Hein, mais ça, je ne vais pas rentrer dans ce genre de considération ici. Si vous voulez, on pourra en discuter après. Donc, bilan. Qu'est-ce que je vois? Eh bien, des hypothèses à discuter. Hein, les limites des politiques prévenant les désastres qui favoriseraient l'intensification de l'urbanisation et la métropolisation, avec justement le point clé qui est l'assurance. Deuxièmement, eh bien, la nécessité d'admettre une capacité des sociétés humaines à prévenir les désastres, faute de quoi on ne pourrait pas comprendre l'intensification de l'urbanisation malgré l'augmentation apparente des fréquences de désastres, et en même temps, eh bien, que ces politiques doivent être limitées, nécessaires et nécessairement limitées. On a bien les deux dans le même, donc, dans le même ensemble. Et bien sûr, bien si ces hypothèses existent, on doit être en mesure de les tester. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose ici le passage à un exemple. Il y en avait d'autres, en fait, bien entendu, hein, beaucoup d'autres envisageables. On a donc choisi, en fait, avec Pierre Bergel, hein, donc celui-ci. Alors, il est extrait des travaux de Sébastien Hardy qui ne sont pas encore publiés. Hein. Alors, vous allez me dire pourquoi j'y ai accès. Tout simplement parce que, d'abord, je travaille avec lui. Hein. Deuxièmement, on est dans le même groupe de chercheurs. Et troisièmement, il s'agit d'un atlas de la vulnérabilité de l'agglomération de La Passe qui va sortir dans un mois et que j'ai relu donc dans le cadre du travail commun, même si je ne suis pas co-auteur de l'atlas. C'est lui qui l'a réalisé. Et alors, que voit-on à La Passe, sachant que Sébastien Hardy est chercheur à l'IRD, l'Institut de recherche sur le développement, qu'il a habité et travaillé à La Passe pendant entre 3 et 4 ans, et que son terrain d'étude pendant ces années-là, c'est clair, c'était La Passe. Alors, du coup, cela lui a permis d'établir des contacts institutionnels avec la municipalité de La Passe, notamment, hein, ce qui lui permet d'aboutir, vous voyez, à ces graphiques qui nous montrent quoi ? Bien, en première lecture, tout le monde voit bien que plus le temps passe et plus on voit apparaître de sommes investies en prévention des risques, pour l'essentiel des travaux structurels, des digues, etc., de chenalisation, que vous voyez apparaître ici. Hein. Et pourtant, dans le même temps, si vous regardez le nombre d'interventions d'urgence, eh bien, on voit que même si les dossiers, les données ici sont relativement grossières, ce n'est pas parce qu'on investit plus et toujours plus dans les travaux de correction, ce qui se voit sur le terrain sans nombre d'un doute, hein, que pour autant les situations d'urgence et où les dommages disparaissent. Sûrement pas. Hein. Et on retombe, vous voyez, sur la même signature que celle qui apparaît dans la petite phrase provocatrice de White. Hein. Plus on en sait, plus on gère et plus on perd. C'est exactement ce qu'on a là, hein, semble-t-il, avec justement les photos de terrain, les routes déformées, etc. Hein, donc, par les glissements de terrain que l'on voit ici. Et effectivement, si je regarde également les cartes qu'est en train de publier donc Sébastien Hardy, on s'aperçoit que bien que les travaux de correction soient limités par rapport aux leurs effets attendus, parce qu'officiellement, les travaux de correction sont censés éliminer tout dommage, officiellement, hein, dans la bouche des politiciens et également dans la bouche également des ingénieurs de bureaux d'études, même s'ils savent très bien qu'il est impossible d'éliminer tout dommage, bien, cette tendance se poursuit ici. D'ailleurs, vous voyez très bien que dans la légende, hein, on a en 1 les investissements dans les canalisations, les drains, les murs de contention, puis en 2 la partie dite soft, hein, d'accompagnement, de renforcement de la sécurité civile, dont on prétend qu'elle est en train de chercher à compenser les limites des mesures de structure qui pourtant sont de loin les plus visibles. Donc on voit bien apparaître immédiatement à la fois la nécessité affichée des travaux de correction afin d'espérer prévenir les désastres et en même temps les limites des politiques qui s'appuient sur les travaux de correction afin d'espérer anticiper les futurs désastres. Et de fait, hein, si vous regardez ce qui se fait actuellement à La Passe, on a multiplication des travaux de terrain, des travaux d'expertise autour des ouvrages de génie civil, comme les ponts, vous voyez, régulièrement endommagés, toujours reconstruits, avec toujours plus d'interventions. D'ailleurs, on devine ici que la capacité d'écoulement du pont étant limitée, cela facilite le dépôt de la charge grossière de donc, la rivière torrentielle, d'où la nécessité de curer. Ça nous donne ces amoncellements, évidemment, donc de dépôts anthropiques, hein, que vous voyez apparaître également ici. Toujours plus de coûts, évidemment, et pourtant toujours plus d'interventions. Bien, donc on est bien dans ce qu'on pourrait d'ailleurs qualifier de tendance aux rétroactions positives au sens systémique. Hein. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus on voit apparaître la nécessité de revenir sur des travaux de correction que l'on sait être limités et dans le sens de toujours plus. Pourquoi ceci ? Alors, pourquoi ceci ? Bien, d'ailleurs, vous voyez apparaître également sur les photos de terrain ici, hein, la tendance, vous voyez, à cette coévolution positive au sens systémique. Hein, positif n'est évidemment en aucun cas un jugement de valeur, on est bien d'accord. Hein. On va voir tout à l'heure, d'ailleurs, comment on peut espérer représenter, formaliser ces coévolutions positives. Mais à partir du moment où, donc, on voit apparaître des travaux de correction, ici, les enrochements en bloc cyclopéen, comme par hasard, l'urbanisation s'appuie en partie sur ces travaux de correction pour s'intensifier, On voit la densification ici. Et puis, bien sûr, comme le Rio, hein, le chenal d'écoulement tend à être reporté sur donc, la berge de rive gauche, eh bien, en retour, tôt ou tard, il faut resécuriser ou revenir sur. Vous voyez, on revient sur les aménagements ici de rive gauche pour les renforcer. Hein, et ceci dans une sorte de dialectique où on a toujours plus de travaux de correction en courant toujours plus derrière la volonté d'éliminer tout dommage et avec aussi comme accompagnement toujours plus d'urbanisation à la clé. Donc toujours plus de travaux, toujours plus de dommages dans une course contre la prévention des désastres et aussi toujours plus d'urbanisation. Vous reconnaissez, je l'espère, hein, les éléments que nous avons identifiés au début de cette séance. D'ailleurs, les limites des travaux de correction se voient sur le terrain par les seuils ici. Chenaliser une rivière torrentielle contribue à augmenter la puissance spécifique du cours d'eau et si les conditions géologiques et géomorphologiques s'y prêtent, contribue à favoriser l'incision du limineur, donc à déchausser les digues, d'où l'intérêt d'avoir ici par exemple le seuil qui dissipe une partie de l'énergie et qui accompagne les limites reconnues de la chenalisation. Vous voyez, ceci se voit sur le terrain et pour ceux qui auraient encore un doute, bien regardez ce que vous avez ici pris en photo par Sébastien Hardy. Malgré les enrochements des berges, malgré la chenalisation, bien il faut des dispositifs d'alerte et les dispositifs d'alerte sont la preuve territorialisée clair que ces ouvrages sont nécessaires à la sécurisation dans une certaine mesure de l'urbanisation, mais qui ne pourront jamais prétendre éliminer tout dommage, voire qu'ils contribuent à préparer un futur désastre, confère définition de désastre dans le sens de MDAT, au moins 10 morts et ou 100 sinistrés, c'est-à-dire des seuils d'intensité de dommages qui sont bien entendu d'autant plus facilement franchis que l'urbanisation s'intensifie sur les berges. Donc, on est, vous voyez, donc, entre le terrain et les définitions, il y a un appel. D'ailleurs, donc, les autres preuves viennent derrière. Hein, vous voyez apparaître sur ce document, bien sûr, un des problèmes majeurs qui se pose à la municipalité de La Paz, c'est-à-dire la nécessité de construire, ou ressenti comme tel, sur des terrains pourtant reconnus comme officiellement associés à, par exemple, au risque d'inondation. C'est ce que vous avez, par exemple, sur cette carte, vous voyez, aptitude des espaces à recevoir des constructions, constructibles sous condition d'aménagement. Constructibles sous condition d'aménagement, ben, si je regarde la carte, il y a plein de terrains ici hein, qui vont pouvoir être ouverts à l'urbanisation à condition qu'ils soient associés à des mesures de correction structurelle, digues et autres, dont on sait qu'elles vont être jugées nécessaires et nécessairement limitées. Et donc, elle contribue à préparer, sans le vouloir, bien sûr, de futurs désastres. Ce d'autant plus que, si vous regardez attentivement la carte, on est dans le cadre d'une agglomération entre El Alto et La Paz. Hein. Les deux municipalités sont en fait rivales, pour toute une série de raisons que je ne développe pas ici, mais qui sont assez classiques. Et en fait, si je regarde la carte, eh bien, je m'aperçois que l'évolution démographique de donc, La Paz est aujourd'hui inférieure à l'évolution démographique de El Alto. Plus le temps passe, plus le poids démographique, économique et politique d'El Alto s'accentue par rapport à La Paz et que par conséquent, pour la municipalité de La Paz, il devient politiquement quasiment vital de construire sur des terrains à risque reconnu, les risques d'inondation. Pour le formuler autrement, j'aime bien cette petite phrase, à vous de me dire si ça vous convient aussi, il y aurait pour la municipalité de La Paz plus de risques à ne pas construire sur des territoires à risque identifié. Relativisation du risque d'inondation par rapport au déclassement comparatif vis-à-vis de El Alto. Et quand on travaille sur les risques d'inondation, les désastres d'inondation, on ne travaille jamais que sur l'inondation. L'inondation n'est qu'une composante, une petite composante de la problématique. D'ailleurs, c'est la raison principale pour laquelle, bien sûr, Sébastien Hardy, ici, a, vous voyez, fait apparaître l'évolution démographique comparée de donc El Alto et La Paz pour attirer notre attention sur ces éléments qui sont ces éléments géopolitiques. Donc, la géographie des désastres, c'est d'abord de la géopolitique. Bien, d'où la nécessité, j'aurais presque terminé sur La Paz avec ceci, la nécessité d'accompagner les limites des politiques de prévention des désastres qui s'appuient sur les mesures de structure, c'est-à-dire d'identifier les centres de secours en cas de crise, voir quels sont les centres de secours qui sont en zone inondable, quels sont donc ceux qui vont être accessibles ou pas en cas de crise, sachant que cette carte est aussi un aveu du caractère nécessaire, pour toute une série de raisons, politiques, etc., économiques aussi, est nécessairement limitée et que par conséquent, il s'agit de les accompagner en courant derrière la prévention des désastres et sans jamais pouvoir prétendre éliminer tout désastre. Donc, vous voyez, ce sont des éléments, me semble-t-il, simples, mais qui attirent l'attention pratiquement sur, je dirais, la nécessité de prévenir les désastres, parce que la prévention contribue à l'urbanisation, mais en même temps, l'impossibilité d'éliminer tout désastre, parce que ces politiques contribuent à préparer de futurs dommages, voire de futurs désastres, sans le chercher, évidemment. Alors, comment peut-on comprendre ceci? Je passe sur celle-ci. Hein. Le bilan, je viens de l'évoquer, je dirais, en quelques phrases. Quels sont les outils méthodologiques et les notions et donc les outils méthodologiques qui vont nous permettre de donner plus de sens à tout ceci? Vous voyez, donc, la base du raisonnement, elle peut être identifiée à partir d'un bilan à échelle mondiale. Elle peut être identifiée aussi dans des termes extrêmement voisins à partir d'un bilan local. La passe, ça aurait pu être autre chose. Hein, bien. Donc, dans ces conditions, puisqu'on a des tendances de fond qui sont voisines, quelle que soit l'échelle, quel que soit le pays, bien, il est légitime de chercher à trouver des notions et de trouver des méthodes qu'on pourrait employer, quels que soient les peuplements et quelle que soit l'échelle prise en compte. Et forcément, vous voyez, quel que soit le peuplement, quelle que soit l'échelle prise en compte, on est obligé de s'abstraire, hein, de se tourner vers une approche beaucoup plus abstraite et beaucoup plus théorique. Et donc, dans un premier temps, je reviens sur les éléments de base. Vous voyez, the more we lose, d'abord, the more we learn, effectivement. Hein, si donc on regarde par exemple ici les articles dans les revues de rang A qui utilisent la notion de résilience, ben, vous constatez que si on admet que réfléchir sur la résilience, c'est en savoir plus sur les désastres, ben, en fait, on n'a jamais eu une connaissance aussi précise des désastres qu'aujourd'hui. D'ailleurs, en 2002, c'est le moment où j'ai soutenu l'HDR, il n'y a pas une seule référence à la notion de résilience dans mon HDR, qui s'est pourtant très bien passé, faute de quoi, d'ailleurs, je ne serai pas devant vous vraisemblablement aujourd'hui. Donc, par contre, vous voyez, l'évolution depuis. Hein. Bon, autrement dit, on suppose qu'on en sait toujours plus sur la résilience, et donc on comprend toujours mieux les désastres. Hein. Et effectivement, the more we learn, the more we lose, ok. Mais en même temps, regardez l'évolution de la mortalité. Ah, on ne peut quand même pas prétendre que parce qu'on en connaîtrait plus, ça ne servirait à rien. Parce que l'évolution de la mortalité vous montre que le verre n'est pas nécessairement mi-vide, il est aussi mi-plein. Hein. Vous voyez que le bilan est ambigu. Il y a deux éléments à prendre en compte. Donc, quels sont les éléments qui vont nous permettre de donc prendre en compte ceci? Bien, donc, d'abord, c'est la capacité des sociétés humaines, capacité donc relative, partielle, à prendre acte des limites des politiques antérieurement menées. Et parmi ces politiques, de manière générique, qui témoignent de cette capacité à prendre acte des limites des politiques antérieurement menées, et ou de la capacité de l'urbanisation à produire, sans le vouloir, ses propres dommages, bien, on va trouver, bien sûr, les politiques qui se réfèrent au développement durable, hein, que vous pouvez voir apparaître donc ici, vous voyez, présenté de manière très simple, hein, comme tout le monde reconnaît ce schéma, je pense que tout le monde l'a vu. Hein. Donc, je vais peut-être attirer votre attention aussi, puisque je suis là aussi pour ça, hein, on est là pour discuter, si on le peut, hein, travailler ensemble là-dessus. Bien, là, vous avez une vision linéaire, vous voyez, hein, donc fonctionnement urbain qui prélève sur l'environnement en contribuant à le faire évoluer et en provoquant, en contribuant à faire apparaître des dommages. Et puis des sorties, là, vous reconnaissez rejet atmosphérique avec les fameux, bien sûr, gaz à effet de serre, qui sont considérés comme étant des facteurs de dommages et préparant de futurs désastres sans que les sociétés humaines le sachent. Ça, c'est avant le développement durable. Et les politiques qui se donc revendiquent du développement durable peuvent être notamment donc ramenées à ce schéma-ci. Parce qu'à partir du moment où on reconnaît que l'émission des gaz à effet de serre, ce qui est masqué ici, se retourne contre les agglomérations, bien, cela signifie qu'il s'agit de prendre acte des effets en retour non désirés du fonctionnement des villes sur elles-mêmes, voyez, hein, il retourne en raisonnement en boucle. Et donc, dans ces conditions, il s'agit d'espérer réduire le plus possible les échanges à échelle mondiale, petite échelle, pour renforcer les échanges à échelle locale, et notamment par le recyclage. Valorisation donc du local aux dépens du global, dans une perspective qui est aujourd'hui très clairement admise, celle de prévention des futurs désastres. Qu'est-ce que vous avez derrière ceci pour le géographe ? Bien, vous avez les maisons passives, la réduction du recours aux énergies fossiles, etc., c'est-à-dire des formes de peuplement qui prennent en compte la capacité d'adaptation dans une certaine mesure, la capacité d'apprentissage, dans une certaine mesure, parce que tout le monde ici sait très bien que ces éléments ne sont pas nécessairement acceptés pour toute une série de raisons, hein, donc, mais qui montrent, en fait, comme le rappelle la couverture de ce livre, voyez, la capacité à la résilience. Voilà la notion qui commence à apparaître sur les couvertures. Hein. Qu'est-ce que c'est que la résilience ? Bien, la résilience, elle peut être vue de cette manière-là. Capacité des peuplements humains à conserver leur structure fondamentale en s'adaptant, c'est-à-dire en prévenant de futures catastrophes. Là, cette fois, évidemment, c'est de l'adaptation contre les futures catastrophes et en espérant qu'en cas de survenue d'un événement, l'intensité du dommage soit le plus faible possible, c'est-à-dire en espérant échapper au champ du désastre. Vous voyez, j'espère que tout le monde voit bien la différence entre les deux. Hein. Le catastrophe, remise en cause fondamentale des structures de peuplement. Le désastre, niveau d'intensité comparativement élevé. Donc là, bien sûr, on aurait ces formes d'adaptation qui sont visibles et qui témoigneraient de la possibilité de démontrer l'existence d'une forme de résilience, en tout cas à échelle locale. Même chose avec ce schéma. Alors là, donc pour les dernières diapositives, il va falloir être donc plus concentré, hein, parce qu'effectivement, on va vers des éléments un peu plus d'apparence abstraite. Hein. Eh bien, cette courbe que vous avez ici, elle porte un nom, c'est la courbe de Farmer. Et la courbe de Farmer, elle représente très simplement le rapport inverse entre la fréquence des événements et l'intensité des événements. Et donc, elle nous montre quoi ? Eh bien, appliquée à l'urbanisation de la vallée des larves, elle permet de démontrer la tendance sur le pas de temps historique à voir apparaître une baisse des fréquences d'événements associés aux submersions. C'est-à-dire, regardez la carte de 1854, eh bien, lorsque l'Arve débordait ici, il y avait des fréquences au moins annuelles, qu'on fait en Mougins 1914 et Torrent de Savoie. Mais par contre, l'intensité évaluée, même si on a du mal à admettre évidemment la comparaison absolue hein, entre les deux peuplements, quoi qu'il en soit, l'intensité des dommages aux bâtis, notamment aux entreprises, etc., est évidemment beaucoup plus faible. Donc, fréquence élevée, intensité limitée. Aujourd'hui, si vous regardez évidemment ce qu'on trouve sur le même site, ici, pas besoin de détailler, tout le monde voit très bien, hein, la zone d'activité économique s'appelle bord d'Arve, d'ailleurs. Hein, en cas de débordement de l'Arve, de crue par débordement, fréquence aujourd'hui très rare, il n'y a pas eu d'événement depuis 1968, mais si l'Arve déborde, par contre, on est certain que l'intensité serait évidemment sans commune mesure hein, par rapport à ce qui a été enregistré au cours du XXe siècle. Par conséquent, la courbe de Farmer ne démontre pas simplement ici le rapport inverse en un moment donné entre intensité et fréquence, mais elle permet aussi de démontrer la possibilité, hein, en tout cas, donc la tendance des sociétés humaines, vous voyez, au fur et à mesure de l'intensification de l'urbanisation, à préparer un futur désastre. Parce que le point B correspond évidemment à la notion de désastre. Ici, vous avez les dommages, je dirais pratiquement, communs, hein, avec une intensité faible, qui n'intéresse d'ailleurs pas les assureurs. Là, par contre, ça n'intéresse pas les assureurs non plus du reste, hein, mais vous êtes en présence, effectivement, du champ du désastre. Cela, donc, permet d'attirer l'attention sur la possibilité de démontrer que plus le temps passe, plus l'urbanisation s'intensifie, et plus ici, elle s'intensifie en chenalisant la rivière torrentielle, toujours plus de travaux de correction. Sans le vouloir, la chenalisation favorise l'urbanisation, mais elle ne favorise pas que l'urbanisation intensifiée, elle favorise aussi, sans le vouloir, la préparation de futurs désastres. Donc, l'urbanisation s'intensifie, bien sûr, en raison des limites des travaux de correction. Et sans le vouloir, bien sûr, aussi l'urbanisation, ici, contribue à préparer de futurs désastres. Donc, l'idée, c'est d'attirer votre attention sur le fait qu'on dispose d'outils comme la courbe de Farmer, qui est une loi puissance. La loi puissance, c'est l'identification possible de la complexité, permettant, vous voyez, de donner plus, je dirais, de sens abstrait, hein, de monter en abstraction au raisonnement de base que j'ai tenu devant vous, soit au niveau mondial, soit au niveau local, en ajoutant effectivement un instrument qui tourne le raisonnement vers les théories de la complexité. Parce que les lois puissance comme les fractales, ce sont deux manières complémentaires d'aborder l'existence de la complexité. Complexité, cum plexus, ce qui coévolue, ce qui est tissé, ce qui évolue, vous voyez, ensemble. Hein, donc, c'est l'étymologie de la complexité. Donc, d'ailleurs, on peut le vérifier, parce que là, vous pourriez me dire, oh, c'est la vallée de l'Arve, il ne se passe rien. Hein, mais dites, la faute sur mer que nous avons évoquée tout à l'heure avec mon collègue historien, bah, la courbe de Farmer, elle s'applique aussi ici. Ce n'est pas d'ailleurs si étonnant que ça. Hein. Vous voyez, donc là, j'ai pris deux photos. Une photo près du port de Plaisance de la faute sur mer. Ici, vous voyez la digue syndicale et le lotissement qui a disparu, d'ailleurs, en grande partie depuis. Hein, bien. Donc là, à l'endroit, vous voyez que je pointe fréquence de submersion au bas mot des dizaines de fois par an, c'est normal, hein, on est sur le SROR, ici c'est littoral, hein, bon, d'accord. Bien, mais évidemment, intensité de dommages extrêmement faible, bien sûr. Bien, mais à partir du moment où effectivement ce type de terrain qui se retrouvait auparavant, d'ailleurs, derrière la digue syndicale, a été construit, hein, là, en l'occurrence, la photo montre le camping municipal de la Faute-sur-Mer, hein, les lotissements dans lesquels on a trouvé les 29 morts se trouvent ici. Hein, c'est ce que mon collègue de Montpellier appelait la cuvette de la mort. Hein, voilà. Bien, à partir de ce moment-là, évidemment, vous voyez, si je suis dans ce point-là, hein, bien, là, on trouve les 29 morts de la faute sur mer, événement, Dieu merci, très rare, mais évidemment d'intensité extrêmement élevée par rapport au contexte français. Et là encore, cela veut dire que plus le temps passe et plus la municipalité de la faute sur mer a autorisé de construire sur des terrains connus comme étant inondable derrière les digues syndicales, et plus sans le vouloir, elle contribuait à préparer la fameuse, donc, le fameux désastre de la faute sur mer. On peut ensuite donc réfléchir pour savoir s'il s'agit d'une catastrophe ou pas. Ça, c'est quelque chose qui mérite d'être discuté. À mon sens, je vous donne une possibilité. On peut le démontrer, si et seulement si, on peut démontrer la tendance de la municipalité de la faute sur mer à transformer donc ce qui tenait lieu de PLU, d'ailleurs un poste en fait, un plan d'occupation des sols, dans un sens qui est celui de densification du bâti, alors que la politique municipale a refusé sur la durée la densification du bâti pour toute une série de raisons qui ramènent à la compréhension du système de peuplement local. Donc, vous voyez que la courbe de Farmer, elle peut s'appliquer à la faute sur mer, elle peut s'appliquer dans bon nombre de cas, et elle permet de démontrer simplement le caractère nécessaire des digues, parce que si vous n'avez pas de digues, vous ne pouvez pas valoriser les terrains derrière, pas de construction, et nécessairement insuffisant. Parce que, bien sûr, sans le vouloir, l'urbanisation derrière les digues contribue à préparer un futur désastre. Ce qui manque, si j'ose m'exprimer ainsi, à la faute sur mer, c'est l'accompagnement de l'urbanisation, l'adaptation du bâtiment, par exemple, au secteur inondé, et ou le développement de certaines formes de culture du risque qui auraient permis, du moins on l'espère, d'abaisser le niveau de mortalité, en cas de survenue d'un événement comme celui-là. Et évidemment, ce n'est pas, pour toute une série de raisons, ce qui s'est produit à la faute sur mer. Donc, je poursuis, rassurez-vous, ce sont les dernières diapositives, d'ailleurs, il me reste 5 minutes. Bon. Donc, dernière diapositive, on peut aller plus loin. On peut aller plus loin, hein, parce que dans ces conditions, vous remarquerez que je n'ai pas besoin de la résilience pour l'instant, hein, pour finalement, donc en accompagnement de la courbe de Farmer, où est passée la résilience, hein ? Alors, on peut aller plus loin, voyez donc la courbe de Farmer que vous avez là, que j'ai présentée tout à l'heure. Bien, cette courbe de Farmer-là, et ça, c'est la même chose. C'est la même chose, sauf que là, bien, vous retrouvez l'axe du temps. Ce travail que j'ai réalisé, en fait, s'appuie sur un travail d'archives et de terrain, bien entendu. Et puis, sur l'axe ici, donc, qui est supposé l'axe des abscisses, vous avez plusieurs mesures de l'intensification de l'urbanisation. L'intensification de l'urbanisation, elle incorpore l'urbanisation, les lotissements, Elle incorpore les travaux de correction. Les travaux de correction sont incorporés dans la section investissement des budgets des collectivités locales. Investissement des collectivités locales. Donc voilà, ils ont aussi de la valeur. Hein. Ce n'est pas construit pour rien, etc. Et vous voyez également apparaître plusieurs générations de travaux ici. Et en s'appuyant sur les archives, eh bien, on peut démontrer ici que plus le temps passe et plus les différents facteurs ici coévoluent dans un sens qui est celui de la préparation involontaire à un futur désastre ici associé aux inondations. Pourquoi ? Eh bien, je regarde rapidement avec vous. Vous voyez, les digues sardes. Les digues sardes, elles existaient en 1968, bien entendu. Elles se réfèrent d'ailleurs à la période sarde, c'est-à-dire d'avant 1860, hein, en Savoie. Les digues sardes sont supposées préserver les terrains ou les sécuriser. Par conséquent, la municipalité a dit « Nous avons des digues sardes, on peut urbaniser ici lotissement des prêles. » Mais en même temps, les digues sardes modifient les conditions d'écoulement du cours d'eau. Elles ont tendance à resserrer, donc à chenaliser le cours d'eau, donc elles contribuent, par exemple, à augmenter la puissance spécifique du cours d'eau. Par conséquent, eh bien, les digues, effectivement, qui modifient le cours d'eau, vont nous permettre d'expliquer la tendance aux dommages, aux ouvrages de correction et aussi aux piles du pont. Comme vous l'avez là sur la photo d'archives 1982, l'Arve s'incise, se chenalise. Cela contribue à déchausser les digues et la pile du pont. Va-t-on en rester à ça ? Ben, vous devinez que non. La municipalité se dit, bon Dieu, derrière les digues, nous avons le lotissement des prêles, on est obligé de faire quelque chose. Il faut revenir sur les travaux de correction. Je reviens sur. Revenir sur les travaux de correction, vous voyez, hop, là, je reviens sur le premier groupe de paramètres et je forme une première boucle, une boucle de rétroaction de tendance positive. Plus le temps passe, plus il va y avoir de densité urbaine, plus il va y avoir de valeur, plus il va y avoir en même temps de dommages, soit dit en passant, et plus cette tendance de fond contribue à préparer un futur désastre. Le jour où il y aura une inondation par débordement qui va concerner des terrains qui désormais sont très densément bâtis. Ai-je besoin de continuer l'analyse des boucles ? Vous voyez très bien, je pense que tout le monde voit le principe. Hein. D'ailleurs, vous voyez, sur le terrain, c'est clair, j'adore cet exemple parce qu'il est vraiment démonstratif, me semble-t-il. Hein. Vous voyez ? Donc, 1984, un seuil. 2002, deux seuils, et puis toujours plus de digues, toujours plus de seuils, et toujours plus d'urbanisation. Et toujours plus, d'ailleurs, bien sûr, de préparation d'un futur désastre. Donc, ça, et ça, pardon, c'est la même chose. C'est le même principe que la courbe de Farmer, sauf que, vous voyez, l'information est, si j'ose dire, raffinée. Elle s'appuie sur les archives, le travail de terrain, elle précise donc les tendances et elle montre surtout une évolution en boucle et elle démontre en fait l'existence de la complexité, cum plexus. Plusieurs groupes de paramètres, 1, 2, 3, 4, qui coévoluent, la tendance étant positive au sens systémique et elle signe la préparation d'un futur désastre. Alors, dans ces conditions, que devient la résilience ? Vous voyez, regardez, là j'ai mis une définition de Resilience Alliance. Hein. La résilience, c'est la capacité d'un système à absorber la perturbation, de donc connaître des changements, et pourtant de conserver essentiellement les mêmes fonctions, la même structure et les mêmes rétroactions. On sait bien ce que je lis, hein. Donc, alors, la capacité d'un système. Un système, ensemble de paramètres en interaction partielle. Vérifiez. Bien, à absorber les perturbations. Les perturbations, ça, c'est pas un désastre. Hein. Bon, même si on pourrait discuter en changeant d'échelle, etc. Mais c'est clair que la structure fondamentale du système de peuplement n'est pas transformée. Le pont est réparé, l'urbanisation s'intensifie derrière. Ça change rien par rapport à la trajectoire du système. Hein. Et pourtant, de retenir les mêmes fonctions, la même structure et les mêmes rétroactions. Une boucle, deux boucles, trois boucles. Toujours plus, on a les mêmes fonctions, les mêmes rétroactions, la même structure. Donc ça, c'est une représentation possible de la résilience. Et comme vous le voyez, du coup, la résilience, est-ce qu'on ne nous explique pas que la résilience, c'est l'inverse du désastre ? Bien, vous voyez que dans ce cas-là, la résilience désigne une tendance d'un système, sans le vouloir, à préparer un futur désastre. On est exactement dans l'inverse de la définition de l'UNISDR. Alors ça, ce n'est pas une découverte Patrick Pigeon, hein. Je n'essaie pas de me faire passer pour quelque chose que je ne suis pas, hein, évidemment. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est identifié très clairement dans l'ouvrage de Walker and Salt ou dans Gunderson et Holling, qui attire l'attention sur le caractère ambigu, ambivalent de la résilience. La résilience n'est en aucun cas, bien sûr, en aucun cas, l'inverse donc du désastre. Dans certains cas, la volonté de maintenir les structures fondamentales d'un système, de renforcer même l'évolution d'un système, peut, sans le vouloir, préparer un désastre, voire préparer une future catastrophe. D'ailleurs, et je terminerai là-dessus, eh bien, là, je reviens avec la courbe de Farmer et je reviens sur un exemple voisin de celui de Sionzier, la commune de Maglan. Qu'est-ce que je vois ? Eh bien, je reconnais, en fait, que cette tendance a fini par être admise ici par l'État français. En effet, dans la commune de Maglan, vous voyez ici, il y a trois groupes de paramètres voisins des précédents, hein, avec la même signature en boucle. Tout ceci est appuyé sur l'étude des archives, hein, qui montrent, par exemple, la commune de Maglan se réunit, le conseil municipal dit « Ah, les digues sont déchaussées, c'est intolérable, il faut que nous protégions la zone économique donc Bordarve, en l'occurrence, là, c'est le Clos de Lille, hein, donc, et par conséquent, chers collègues, nous allons investir plus afin de protéger et toujours plus, bien sûr, urbanisé derrière. Trois ans après, on dit il convient d'avoir un retour sur investissement. Donc, nous allons urbaniser, nous allons changer ce champ inondable en joli lotissement avec des maisons pleines de pâquerettes, etc. Je ne mens pas, hein, ça, j'ai le texte. Hein. Vous voyez, donc, ça, c'est la description, la formalisation de ce qu'on lit dans les archives. Sauf que, crac, à un moment donné, l'État français dit stop. Il ne dit pas stop n'importe quand, d'ailleurs. Vous voyez, dans les années 87-88, Grand Bornand, là, on n'est pas très loin du Grand Bornand, le préfet, représentant de l'État dans le département, se dit « Ouh là là, si jamais il se passe quelque chose ici au Clos de Lille, ça va être quelque chose de voisin du Grand Bornand. On ne peut pas laisser les choses en l'État. » Et là, vous avez trois solutions. Solution numéro un, voulue par la commune de Maglan. Vous reconnaissez la signature proche de Sionzier. L'État français dit non, non, non. Et même le bureau d'études de la Segré dit ah, non, 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 nous, on ne vous laisse pas. Donc, construire des digues toujours plus hautes, hein, qu'on fait la faute sur mer, d'ailleurs, avec donc toujours plus de maisons derrière. C'est hors de question, vous oubliez. Et ce que vous voyez ici, c'est donc la représentation de la zone bleue du plan de prévention des risques. La zone bleue du plan de prévention des risques reconnaît le risque d'inondation, mais en même temps, la possibilité d'accompagner le risque d'inondation, pas seulement en construisant des digues toujours plus haut, mais aussi en adaptant le bâti. Vous voyez, la possibilité d'avoir des prescriptions. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les prescriptions, d'ailleurs. Mais donc, en s'appuyant sur ce principe-là, effectivement, ici, l'urbanisation se poursuit tout en incorporant, en même temps, une partie de prise en compte du risque. Mais ce qui m'intéresse, c'est ça. Ça, c'est la trajectoire de la zone rouge. La zone rouge du plan de prévention des risques, tout le monde le sait, est inconstructible. Et donc, cela se voit. Parce qu'à partir de 1991, il y a eu un arbitrage ici entre la municipalité de Maglan, les propriétaires terriens, l'État français. Et l'arbitrage dit, eh bien, il y a une partie, des parties entières du lit majeur de l'Arve qui vont servir de champ d'expansion des crues. Et pour faire bonne mesure, puisque les digues ne vont plus être utiles, eh bien, les digues vont être détruites. On va les laisser, vous voyez, démanteler au fur et à mesure que l'Arve incise donc son lit mineur. Et de fait, sur cette photo, on devine ici, vous voyez, les arbres tombent dans l'Arve, les blocs donc ne sont plus entretenus, ils tombent dans l'Arve aussi. C'est quelque chose qui est voulu. Alors, maintenant, où est le point ? Où est la résilience ? Bien, ce que j'espère vous montrer, c'est que ce schéma permet ou peut démontrer, justement, le caractère contradictoire de la résilience. En effet, la résilience, c'est là, R1, mais c'est la résilience à l'échelle du système de peuplement de Maglan, qui cherche à conserver ses structures fondamentales, hein, et qui, pour conserver ses structures fondamentales, est obligé pratiquement de mordre, d'urbaniser sur le lit majeur de l'Arve. C'est ce que vous avez, c'est ce qu'on a vu donc avec Sionzier. C'est exactement la même chose. Je ne reviens pas sur la définition. Ça veut dire que cette résilience-là, si je la cale sur la courbe de Farmer, elle contribue à préparer un futur désastre. Parce que plus le temps passe, plus la chenalisation accrue de l'Arve contribue, parmi d'autres facteurs évidemment, hein, donc à chenaliser l'Arve et donc à réduire les fréquences d'inondation, et en même temps offre des possibilités à construire toujours plus officiellement pour les politiques derrière. Donc préparation, c'est la résilience, qui contribue à préparer un futur désastre. Mais ici, pourquoi y a-t-il retour sur cette tendance de fond qui est ici cassée, hein, une bifurcation ? Bien, pour comprendre ceci, je suis obligé de changer d'échelle, c'est-à-dire de prendre en compte l'existence de Genève, l'existence de Bonneville, l'existence d'Annemasse, à Laval, à petite échelle, hein, qui sont évidemment donc d'autant plus menacées que l'Arve est ici toujours plus chenalisée. Et je suis aussi obligé de prendre en compte l'État français, parce que si effectivement se multiplient les désastres dans des communes comme celle-ci, comme par exemple la Faulx-sur-Mer, la multiplication des désastres serait en mesure de remettre en cause la structure fondamentale du système, d'ailleurs, de gestion des risques dits naturels en France. Remettre en cause, en fait, la loi Barnier, et de remettre en cause l'association entre les assureurs et l'État français, que l'on sait être donc comme fondement principal de la loi Taziev en 82, transformée loi Barnier, loi Bachelot, etc. Bien, donc, par conséquent, là aussi, j'ai la résilience. Mais cette fois, vous remarquerez que la résilience, elle est dans le sens de l'UNISDR. Hein, parce que l'objectif ici, c'est d'éviter de construire sur le lit majeur de l'Arve, afin d'éviter une remise en cause fondamentale du système de peuplement pour les communes urbaines qui sont à Laval. Défendre Genève, défendre Bonneville, défendre Annemasse, et puis à une autre échelle, d'ailleurs, défendre l'État français, soit dit en passant. Donc là, la flash, vous voyez, elle va dans ce sens-là. Là, par contre, on oublie l'axe du temps, on ne revient pas dans le temps, bien entendu. Mais donc là, j'enlève l'axe du temps, hein, et donc cela montre la volonté politique de faire en sorte que lorsqu'il se produira une inondation par débordement, bien, si j'ose dire, la position près de la courbe de Farmer pour Maglan, pour Genève, pour Annemasse, elle ne soit pas là, mais qu'elle soit quelque part par là. Ah, c'est-à-dire avec des intensités comparativement plus faibles. Donc on vise à prévenir de futurs désastres. Je vous rappelle que le principe de la courbe de Farmer, c'est le rapport inverse entre fréquence et intensité. Là, vous n'avez pas de désastre. Ce n'est pas intéressant pour les assureurs. Là, vous avez les désastres, ce n'est pas non plus intéressant pour les assureurs. Ce qui est intéressant, c'est la partie centrale. Hein, donc, plus les événements sont à la partie centrale, qui correspond effectivement à la partie qui permet de dégager des bénéfices, et plus les assureurs peuvent tirer parti des limites, hein, des politiques qui cherchent à gérer les risques et à prévenir les désastres. Voilà, donc pour terminer, vous voyez à quoi ça ressemble. Donc là, ça ressemblait à la Faulx-sur-Mer. Hein. Donc, bien sûr, les digues, hein, la cuvette de la mort. Ici, donc, les digues n'ont pas cédé, du reste. Hein. Donc, en fait, elles ont joué un rôle donc totalement inverse à celui qu'elles devaient jouer. Elles ont piégé, effectivement, l'eau derrière la digue, donc sachant que l'eau, d'ailleurs, est montée de l'intérieur, hein, même si donc les vagues ont pu dépasser aussi, d'ailleurs, les crêtes des digues, comme on pouvait le voir encore quand je suis allé sur le terrain, d'ailleurs. Même encore, en juin 2010, on voyait, effectivement, vous voyez, les déferlantes et donc les laissent en tout cas à proximité du camping municipal. Alors, donc, un certain nombre de pistes de réflexion, mais bon, donc, j'espère que ceci a attiré votre attention. Hein. Bien, donc, du coup, on est en mesure, me semble-t-il, de démontrer le caractère nécessaire et nécessairement limité des politiques qui, espèrent prévenir les désastres. Hein, nécessaire, parce que, bien, par les travaux de correction et ou par d'autres politiques, l'objectif avoué, c'est de chercher à abaisser le niveau d'intensité des futurs dommages. Mais en abaissant le niveau d'intensité des futurs dommages, voire les fréquences, d'ailleurs, des événements, forcément, ces politiques tendent à favoriser un faux sentiment de sécurité qui, lui aussi, d'ailleurs, revient vers les politiques en contribuant à préparer de futurs désastres. C'est un peu proche de ce qu'on évoquait tout à l'heure, vous voyez, la perte de culture du risque. Plus, en quelque sorte, les politiques sont mises en œuvre, et plus elles créent une sorte d'illusion de sécurité, de foi dans la technique, alors que pourtant, tous les ingénieurs le savent, aucun ouvrage ne peut permettre de sécurité absolue. Les ouvrages sont toujours dimensionnés par rapport à un objectif donné, qui est un partage économico-politique, parfois culturel, etc. Bien. Alors, deuxième point, bien, en fait, derrière cette évolution, bien, je pense que l'on peut démontrer que plus cette évolution se développe et plus elle favorise la métropolisation. C'est-à-dire plus elle favorise effectivement l'activité des assurances, des réassurances, qui sont d'ailleurs des partenaires essentiels à la prévention des désastres, même si nous le savons très bien en France, hein, par exemple, hein, la politique française est une politique qui utilise beaucoup les assureurs, mais qui ne favorise pas suffisamment la prévention. qui donne justement, on parle le principe de redistribution, mais dont les assureurs français bénéficient largement sur le court moyen terme, hein, donc qui donne l'impression, si vous voulez, que d'une manière ou d'une autre, vous serez remboursé pour peu que vous ayez assuré votre maison contre l'incendie, donc que vous payez la surprime CatNat, qui est évidemment le fond du problème. Bien, donc, troisième point, on peut se demander effectivement si ce ne sont pas précisément les limites nécessaires, parce qu'il y a complexité, les limites des politiques qui préviennent les désastres, qui ne seraient pas un moteur majeur de l'urbanisation. L'urbanisation s'intensifierait aussi ou surtout en regard des limites, pas en raison des politiques, mais en raison des limites des politiques. Et qui aboutissent à revenir sur. Vous voyez, donc c'est le retour sur la capacité à l'apprentissage, la capacité donc à prendre acte des limites des donc politiques précédemment menées. Et bien sûr, derrière ceci, bien, si cela vous intéresse, je vous invite à creuser les choses, notamment donc en regardant de plus près les lois puissance, la résilience, le caractère contradictoire de la résilience, les théories de la complexité, la théorie de l'auto-organisation, théorie de l'auto-organisation critique, parce que vous l'avez bien compris aussi, j'espère, hein, d'ailleurs, hein, vous voyez très bien que plus on réfléchit sur ces questions, et moins les risques sont naturels. Les risques sont fondamentalement affaires de société et affaires de choix politiques. D'ailleurs, il y a une notion essentielle que je n'ai pas développée ici, qui est la notion de mainstreaming chez les anglo-saxons, extrêmement important. Le mainstreaming, hein, qui permet de rappeler simplement que chaque fois qu'on travaille sur les inondations, les avalanches, les tempêtes, on ne travaille jamais que sur les tempêtes, les inondations, les avalanches. Ce ne sont jamais qu'une composante de système de peuplement que on doit pouvoir reconstituer d'une manière ou d'une autre. Voilà, merci beaucoup. Je vois que j'ai débordé, désolé.